Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, Philippe au micro. Bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Malgré le déconfinement, continuons à respecter les mesures barrières car se protéger, c'est aussi protéger les autres. Alors au programme aujourd'hui, on va réviser nos classiques, puis on va avoir une interview faite par nos amis de Radio Campus Saint-Étienne et on va découvrir l'ambition d'une vie d'un jeune afghan. On va commencer donc par nos amis de Radio Campus Paris qui vont nous présenter les erreurs historiques du film La Guerre du Feu. Puis, il y a quelques semaines, nos amis de Radio Campus Saint-Étienne avaient interviewé Yu Ting, une jeune étudiante taïwanaise, au début du confinement. Et ils l'ont retrouvée pour parler de ce qu'elle a vécu. Et nous, on se retrouve juste après. Protégez-vous, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tours.
C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé.
Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça?
Des protecteurs de trésors, plutôt.
C'est de la merde!
J'ai rien compris.
Tu comprends pas! Tu expliques mal! Tu ne sais pas expliquer!
C'est l'heure de On révise nos classiques sur Radio Campus Paris.
Oh putain, moteur!
L'émission qui mêle cinéma et archéologie.
On parle de quel film ce soir?
Attends, j'ai un indice.
Non, mais je le vois pas, ça me parle pas du tout.
Mais évidemment que c'est pas parlant. C'est un film sans dialogue.
Ah !
Ce qui est compréhensible, puisque ce sont des hommes préhistoriques qui en sont les protagonistes.
Et oui, puisque ce soir, on vous parle de la guerre du feu.
Ce feu qui accompagne parfois nos soirées d'hiver ou nos nuits blanches d'été.
Et ce truc qui te donne envie de manger des chamallows, il a bien fallu le domestiquer.
Et apparemment, ça a pas été du gâteau. C'est, en gros,
l'histoire du voyage que font, il y a 80 000 ans, trois Néandertaliens qui partent à la recherche de feu parce que le leur s'est éteint au cours d'un affrontement.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un film de Jean-Jacques
Goldman.
Anno, sorti en salle en 1981.
Il est adapté d'un roman écrit en 1909 par Joseph-Henri Rony, un auteur de science-fiction.
De la science quoi?
Mais c'est du délire!
Fiction pour un film historique?
Vérité, qu'on vous cherche!
Calm down, people. Quand on le sait, ça passe tranquille.
Surtout qu'en fait, il faut dire ce qui est. Hein. On ne connaît que très peu de choses de la vie des hommes de Néandertal.
Donc quand bien même on souhaiterait se rapprocher de la réalité, bah c'est quand même un peu de la fiction.
Tiens, par exemple, on ne sait rien de leur langue. C'est pour cela que dans le film Jean-Jacques...
Rousseau !
Anno a fait appel à l'écrivain Anthony Burgess, rodé à l'expérience puisqu'il avait déjà inventé une langue pour son livre dont allait être tiré le film Orange Mécanique.
Quand on ne sait pas, bah autant inventer, hein.
En s'inspirant par exemple de probables racines indo-européennes.
Pour le feu, prenez le mot latin atrium, désignant foyer, mélangez-le avec un peu de français, l'âtre, un peu d'anglais, ashtray, et un son légèrement animal. Vous obtiendrez le guttural.
Atre.
Donc ils inventent une langue. Mais est-ce qu'ils ont essayé de rester crédibles aussi pour tout le reste?
Un poquito. Parce qu'il y a quand même...
Oui.
De gros anachronismes.
Ouais.
Numéro uno. Dans le film, les protagonistes prennent une démarche simiesque, hyper prononcée, se balançant de chaque côté.
Sauf que les hominidés sont bipèdes depuis 3 millions d'années. Et qu'il est attesté aujourd'hui que les hommes de Néandertal, à la différence des Homo erectus par exemple, marchaient comme nous.
Numéro dos.
Ils utilisent des propulseurs.
Mais quoi?
Des armes de jet qui permettent de lancer plus fort et plus loin les sagaies pour atteindre leurs adversaires.
Mais l'usage des propulseurs n'est attesté que 50 000 ans plus tard. Numéro tres.
Uepa!
Ou 4, ou 5, ou 6, puisque Jean-Jacques Anno se laisse ici aller à un ensemble de facilités scénaristiques dignes des plus beaux péplums.
Une idylle naissante entre le Néandertal et la Sapiens.
Un domptage de mammouth laineux à coups d'herbe fraîche.
Un cri de Tarzan à la minute 24. Improbable.
Mais surtout, y a pas un truc qui te choque?
Bah si, c'est l'énorme raccourci chronologique que le film propose.
Les mecs, en l'espace de quoi? 10-15 jours, ils découvrent le rire,
la propreté,
les sentiments,
la poterie,
l'habitat en hutte,
la position du missionnaire
et. À faire du feu.
Des journées bien denses donc.
Nettoyer, balayer.
On nous montre des personnages qui quittent l'état de quasi-bêtes pour devenir des hommes, des vrais.
L'aube de l'humanité en 1h40.
Malgré ses écarts historiques, ce film a très bien marché en salle au moment de sa sortie. Et il a considérablement marqué les esprits.
Et pourquoi ? Eh bien peut-être parce qu'il n'y a que les archéologues pour être choqués par les anachronismes cités plus haut. Ce qui compte, c'est d'assister à une fabuleuse aventure.
La préhistoire n'est ici finalement qu'un prétexte pour raconter une péripétie incroyable.
Et d'autant plus poignante qu'elle est extrêmement simple.
La quête du feu.
Une véritable aventure humaine qui, bien que parfois caricaturale, nous permet
de réviser nos classiques.
Vous écoutez Radio Campus et nous sommes avec Yuting. Yuting, vous venez de Taïwan, vous êtes étudiante au SILEC à Saint-Étienne. On vous avait déjà eu à l'antenne le 26 mars dernier, c'était dans la seconde semaine du confinement. Là, nous sommes le 7 mai. Comment s'est passé ce gros mois, un peu plus d'un mois, presque un mois et demi de confinement ? Déjà au niveau des cours, comment ça s'est passé, Yuting, finalement ? Parce que au mois de mars, vous nous disiez que vous aviez régulièrement des contacts avec les professeurs et que ça se passait plutôt bien. Alors, est-ce qu'au mois d'avril, ça s'est aussi bien passé ?
Oui, c'est aussi très bien passé. On continue à suivre les cours à distance. Et donc, on a aussi les devoirs pour tous les jours. On reste à se contacter pour tous les jours. Ce cours nous occupe un peu aussi. Oui.
Donc, pas de problème au niveau des cours. Et dans la vie quotidienne, vous nous disiez au mois de mars que vous passiez du temps finalement à lire, à essayer de faire un peu de sport. Alors, est-ce que finalement, ça a été aussi facile de continuer le sport et s'occuper hors des cours ?
Oui, en général, ma vie n'a pas beaucoup changé. Je cuisine, j'ai aussi cuisiné, j'ai aussi fait du sport chez moi. Mais maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue, je vais courir un peu. Parce que, en fait, c'est pas mon habitude de faire du sport à l'intérieur. Donc, il me faut de temps en temps sortir. Ouais. C'est la seule petite inconvénient pour le confinement, mais pour les autres parts, je pense que c'est pas très dur et ça va continuer.
Alors, a priori, si tout va bien, le confinement va se terminer ou en tout cas va prendre une autre forme à partir du 11 mai. Vous l'imaginez comment votre vie à partir de lundi à Saint-Étienne ?
En fait, pour moi, le 11 mai a commencé le déconfinement, c'est un peu tôt parce que la situation n'est pas très stable maintenant. Et je pense que je vais continuer à diminuer les sorties et donc comme les restaurants sont aussi fermés, je vais rester chez moi pour peut-être une semaine ou plus 2 semaines, je pense.
Donc vous allez continuer finalement le confinement de vous-même.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches, de vos amis, de votre famille à Taïwan et comment ça se passe pour eux en ce moment ?
Ma famille à Taïwan, mes parents, ils passent très bien. Et donc, en fait, la vie en Taïwan, c'est pas très dur comme en France. On vit normalement. Et maintenant, mes proches qui sont en Chine actuellement, comme les travaux reviennent et donc ils recommencent les cours, elles peuvent sortir un peu comme avant, je pense que ce sont des bonnes nouvelles, quoi.
Donc la vie reprend son cours de façon, on va dire, naturelle, normale à Taïwan. Oui. Est-ce qu'il y a quand même cette peur d'une seconde vague aussi là-bas, d'une nouvelle poussée de l'épidémie?
À Taïwan, je pense que c'est pas une très grande, c'est pas un très grand danger parce que il y a peut-être quelques cas, quelques nouveaux cas par semaine, mais il n'y a pas une vague comme en France ou comme dans les autres pays. Et en Chine, on réagit par les mesures très sévères, donc c'est pas très dangereux non plus. Mais en France, si je m'inquiète beaucoup de la seconde vague, comme on va bientôt rouvrir les endroits publics.
Merci, Yuting, d'accorder du temps à la radio pour ce second témoignage de presque fin de confinement, en tout cas cette période officielle. Merci de nous avoir accordé du temps à la radio.
Je vous en prie.
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée toute la semaine de 11h30 à midi et sera rediffusée de 16h30 à 17h, sauf le vendredi où ce sera à 17h30. On va passer la main à nos amis de Radio Campus Rennes qui vont vous faire découvrir Wahab, un jeune Afghan dont le rêve est de devenir un joueur de cricket professionnel.
J'étais 8 ans ou 9 ans que j'ai commencé les cricket en Afghanistan. C'est très très connu maintenant. Et c'est sport national comme en France, football. Et en Afghanistan, c'est cricket. En fait, nous, depuis 12 ans que je suis en France, on a joué avec les grands avant. Et un jour, j'ai dit, les gars, venez, on va faire une équipe de jeunes. Moins de 20 ans, moins de 19 ans. On va sortir en équipe, on va faire une vraie équipe. Et après, chaque joueur, il a donné 5 euros, 10 euros. Et on a acheté tous les matériels, les bêtes, les balles, tout ça, pour faire une vraie équipe. Et après, on a trouvé ce terrain, on a joué maintenant ici. Moi, je suis arrivé en France en 2014. Je suis arrivé à Rennes et j'étais en service social qui m'a accueilli pour aller en famille d'accueil. En Afghanistan, moi j'étais à l'école coranique. En France, on ne connaît pas, mais l'école coranique, c'est on apprend les Corans. C'est pas comme à l'école en France, on a les mathématiques ou histoire, tout ça. Le coranique, c'est pas ça. On juste apprend le Coran. Et quand j'étais 9 ans ou 10 ans, et les talibans ils m'ont dit, Wahab, tu viens avec nous pour faire de la guerre. Moi, j'étais jeune. Et j'ai pas connu, j'ai connu la guerre, j'ai vu, mais j'ai dit, moi, je suis jeune, si je viens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire. Mais eux, ils m'ont forcé. Et moi, je suis pas d'accord. Et moi, j'ai venu demander à mon père, papa, moi, je vais pas aller maintenant à l'école. Parce que le taliban, il me demande, tu viens avec nous pour faire la guerre. Mais mon père, il savait pas. Il dit, Wahab, non, Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi les jeunes de 10 ans, de 9 ans, ils vont aller à la guerre? C'est impossible. Il m'a dit non, Wahab, tu vas aller à l'école. J'ai pleuré, j'ai fait plein de choses, mais mon père il m'a dit non, Wahab, c'est très important pour toi. Si tu restes sans l'école, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et après, j'ai retourné. Et le troisième jour, les talibans ils m'ont amené en montagne. C'est très très loin de notre ville natale. Et j'ai resté un mois à peu près avec les talibans. J'ai appris plusieurs choses. J'avais pas le choix. Soit je vais faire des bombes, soit je vais faire de la guerre, soit je vais faire d'autres quelque chose. Mais le jour qu'il m'a dit Wahab, allez, on y va, j'ai dit non, j'ai pu refuser. J'ai dit non. Il m'a tapé, il m'a fait plusieurs choses, mais j'ai pas envie d'aller. Et après, j'ai parti. C'était la nuit. Il y a une personne qui m'a dit Wahab, je te vis plusieurs jours, tu as envie de rentrer chez toi. Et moi, je veux t'aider, mais tu dis à personne. Et le matin, j'ai rêvé pour faire la prière. Il m'a dit Wahab, je te donne un chemin et tu pars par là. Tout le monde il dort. Mais tu sors de là et tu cours. Tu cours jusqu'à. Il m'a donné un chemin et j'ai parti. J'ai marché 3 ou 4 heures. Et là c'était soleil, il est tombé. J'ai caché un petit peu sur les arbres, tout ça. Et comme c'était la nuit encore, j'ai parti. Je suis venu chez moi. J'étais un peu changé. J'ai vu plusieurs. Blessure, et comme mon père il m'a dit Wahab, qu'est-ce qui se passe, et il m'a envoyé tout de suite en vacances avec mon petit frère. On allait chez notre oncle. Et après on a attaché avec le baseball maintenant, les clubs de cricket. J'ai allé voir les profs de baseball. Ils m'ont dit Wahab, pour nous c'est intéressant. Parce que le baseball et le cricket, c'est un peu pareil. Et c'est eux qui disent Wahab, on va faire maintenant tout ce que vous voulez et on va aller très très loin. J'ai rencontré beaucoup de jeunes maintenant, depuis que j'ai commencé à faire des marches pour ouvrir un club. J'ai parlé avec le président de Nantes aussi, un petit peu, pour faire des compétitions. Et un autre club aussi à côté. Parce que c'est moi qui fais toutes les marches, et c'est moi qui fais toutes les choses, c'est moi qui donne l'argent, tout ça pour chez matériel. Mais c'est, pour nous, c'est très très cher. Par exemple, si on achète un truc pour un joueur, et ça c'est 150 euros. Et nous, on a besoin de 5 ou 6. Hier après-midi, j'étais en cours. Et il s'appelle Fabien, c'est le chef de cricket. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Et j'ai envoyé un mail parce qu'il m'a donné un rendez-vous le mardi. J'ai dit, bah moi j'ai pas de nouvelles. Si vous dites d'accord, je reste avec vous, mais sinon j'ai d'autres possibilités pour ouvrir un club. Maintenant j'ai fait des marches. Je veux que ça finisse par un vrai kiff. Et après, à vous de choisir si vous dites d'accord ou si vous dites pas d'accord. Mais moi j'ai envie d'aller très très loin. les talibans, il est venu chez moi. Et il a demandé, il est où Wahab? Il a cherché moi, il ne m'a pas trouvé. Parce que moi, j'ai parti. Et comme j'étais pas chez moi, bah, il a mis des bombes, tout ça, chez moi. Et mon père, on va dire, il a blessé à cause du Kalachnikov. Et ma mère et ma soeur, elle est morte. Et deux jours après, mon oncle m'a dit, Wahab, on va aller chez toi. Il m'a amené juste à l'hôpital. Il m'a dit, moi j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ici à l'hôpital? Je fais quoi? Il m'a dit, non, Wahab, tu viens, je te montre quelque chose. Je suis venu, je regardais mon père. J'ai dit, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il y a? Et après, j'étais un peu perdu, j'ai pas posé de questions. Et 3 heures, 4 heures après, j'ai réveillé. Et je demandais, qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi. Ma mère, elle est où? Ma soeur, elle est où? Et il m'a pas laissé que je rentre chez moi. Je suis resté quelques jours à l'hôpital avec mon père. Mon père, quand il a un peu ouvert les yeux, il a parlé un petit peu. Il m'a dit, Wahab, que tu pars de là. Tu restes pas à la maison. J'ai dit, je vais où? Je vais où? Je parte de là. Et toi, tu restes ici. Tu es blessé. Qu'est-ce que je veux faire? Et après, il m'a dit, non, Wahab, tu pars de là. Il a parlé avec mon oncle. Il a dit, tu aides mon fils qui va aller en autre pays, par exemple Pakistan, Iran, et d'autres pays. Et mon oncle m'a dit, Wahab, toi, t'as envie quoi maintenant? T'as envie de mourir ou t'as envie de changer la vie? J'ai pleuré, longtemps j'ai pleuré, mais j'avais pas de choix. J'ai laissé mon père en l'hôpital avec mon petit frère. J'ai laissé avec lui. Et moi, j'ai parti. Quand j'ai parti, j'ai venu au Kaboul, capitaine de l'Afghanistan. Et en Kaboul aussi, c'était très compliqué pour moi. Parce que Kaboul, c'est une grande ville, mais si t'as pas de quelque chose, t'as pas de travail, t'as pas de... C'est un peu compliqué. Et moi, j'ai venu au Iran. Et Iran, j'ai resté 2 ou 3 jours, j'ai venu Turquie. Turquie, après, c'est Grèce, et après, c'est le pays de l'Est, que j'ai passé en Grèce, Autriche, Allemagne, Italie, j'ai passé en France. Donc, normalement, j'ai envie d'aller en Angleterre. Et comme je venais à Paris, j'ai vu les Tour Eiffel, j'ai dit, ah bah c'est ça le Paris. Et j'étais content. Et il m'a resté 2 euros dans ma poche. Et les autres, 10 000 euros, partis. Ce que j'ai donné à chaque passeur. Et après, c'est mon oncle qui m'a donné le numéro de mon cousin. Il s'appelle Ousmane. Il m'a dit, ok, bah, tu prends le train de direction de Rennes, et tu verras. Là, le terrain, parce que c'est dangereux pour nous, parce que le terrain, ils sont tout mouillés, il y a de l'eau partout. Si on vient le ballon ici, le joueur, il va tomber. S'il tombe, il va voir mal et il va pas lancer le ballon bien et ne jouer bien. Pour ça, on a pas envie de jouer aujourd'hui. Moi, j'ai pas parlé avec mon père parce que, comme je suis venu en France, j'ai cassé mon portable. Comme je suis venu à Rennes, et j'ai demandé une autre carte aussi, mais il a dit non. Il m'a pas donné les numéros et tous les numéros j'ai perdu. Et après, j'ai trouvé par internet. Comme j'ai parlé un petit peu anglais et français, j'ai envoyé plusieurs emails à l'hôpital de Ningarhar. J'ai dit, mon père, il était là, mon père, il est où maintenant, il s'appelle ça, il est blessé comme ça. Je l'ai expliqué, mais c'est après, c'est un docteur qui m'a trouvé. Il a dit, oui, je connais ton père qui était là depuis quelques mois. Et maintenant, il est sorti et il va bien. J'étais content. Et après, il m'a donné son numéro, je l'ai appelé. La semaine dernière, j'ai vu un coup de fil, c'était... Pour moi, c'était pas bien, parce que maintenant, les jeunes, ils savent que Wahab, il est pas mort. Normalement, j'ai dit à mon père, si Wahab, quelqu'un qui demande Wahab, il est où, on dit que Wahab, il est mort. Un jour, mon père, il revient, parce que moi, j'ai fait des marches pour lui. Peut-être, il revient, lui, en France. Juste, il attend son visa, c'est tout. Il revient en France. Pour nous, c'est... France, maintenant, c'est intéressant. Mais le jour que j'attends, oui, c'est le club de Rennes, il est allé en Angleterre. Ça, c'est pour moi, c'est très très important. J'espère un jour on va voir un vrai équipe. Nous sommes contents. Nous sommes là pour partager notre vie, pour partager notre équipe. Et j'ai un message pour les Français. Par exemple, les Français, ils ne connaissent pas. Il n'a jamais vu sur la télé, il n'a jamais vu sur. Mais j'espère un jour on va sur télé. J'espère on attend ça.
Wahab, le cricket après tout. Un documentaire de Johan Boisgontier, Benoît Fleury et Romain Leduc.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même place, pour En attendant que le monde change. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à vous protéger et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'assurance maladie et de Santé publique France.